Georges Chabinet, bonjour, bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir.
Bonjour, je suis très très heureux d'être là.
Merci de me recevoir pour cette belle discussion philosophique et anthropologique. Et je voudrais commencer tout d'abord par une citation d'Oscar Wilde. Un jour, on demandait à Oscar Wilde de se présenter et voilà quelle fut sa réponse. Je suis toujours en train de m'étonner moi-même. C'est la seule chose qui rende la vie digne d'être vécue. Et vous, Georges Chabinet, qui êtes-vous ?
Alors, je vais peut-être paraître prétentieux. Je suis quelqu'un qui ne peut être que dans l'enthousiasme. Dans le vrai sens du mot. Et je pense que la démarche personnelle, en tout cas, de ma vie depuis que j'ai conscience de ce miracle qui est d'être vivant, elle est attachée exactement à la recherche continuellement de l'enthousiasme.
La recherche de l'enthousiasme, c'est un beau mot qui vous caractérise et si je puis me permettre, qui se lit sur votre visage.
Vous êtes trop gentil. Déjà, le fait de dire que cette conversation sera philosophique et anthropologique, vous mettez la barre très haut. Je ne suis qu'un musicien.
Un haut musicien, si je puis dire. Alors, quels sont, pour les milliers d'étudiants qui nous suivent, tout simplement en quelques lignes, pouvez-vous retracer votre carrière ?
Écoutez, c'est déjà, si je peux me permettre, je n'aime pas le mot carrière. J'accepte la carrière des sculpteurs, mais la carrière telle que nous la vivons aujourd'hui de plus en plus me semble être une source de déshumanisation de laquelle j'essaie de m'éloigner le plus possible. Je suis un musicien depuis toujours. Depuis que j'ai conscience de moi-même, la musique a toujours été le fondement de mon existence. J'ai débuté très tôt, le piano, la voix de telle manière que l'appartement de mes parents à Porto, au Portugal, était à côté donc d'une académie de musique où il y avait une chorale d'enfants que j'entendais toujours avec une joie immense dans le jardin, que je suivais avec attention dès qu'il y avait des répétitions. Et j'ai donc demandé à ma mère que je voulais absolument faire partie de la chorale. Uniquement cette chorale était une chorale entre 6 et 12 ans. Et j'en avais 4. Donc, comme j'étais quelqu'un de très têtu, tous les jours je demandais à ma mère qu'il fallait absolument m'inscrire dans cette chorale, qu'il fallait que je chante avec eux. Donc un jour, elle n'en pouvait plus, elle a téléphoné au directeur, et le directeur de l'académie m'a reçu très gentiment, sauf que ma mère, pendant la conversation, sans savoir que j'étais à côté et que j'ai tout entendu, et elle lui a dit, « Monsieur, vous savez, il a 4 ans, on sait que c'est à partir de 6 ans, donc vous lui demandez l'âge, et comme ça, tout sera solutionné, vous l'avez reçu, et on n'en parle plus. » Donc, je suis allé voir le directeur, et au moment où il me demande presque la première question, « Quel âge as-tu ?» je lui ai répondu du haut de mes 4 ans, « 7 ans, parce que j'avais des problèmes dedans. » Donc, il a trouvé ça très drôle, parce qu'il savait très bien que je n'avais pas 7 ans, et il m'a dit, mais alors, chante-moi quelque chose. Et je lui ai chanté tout le répertoire de la chorale. Donc, tout d'un coup, il était un tout petit peu étonné, et il m'a accepté. Donc voilà, le piano, le violoncelle un peu plus tard, mais je veux dire, le langage musical était pour moi absolument essentiel. C'est là où je me sentais chez moi. Et depuis, ça n'a pas arrêté.
Ça n'a pas arrêté. Alors, vous avez utilisé une sémantique dont je voudrais que vous définissiez. Tout d'abord, pour vous, qu'est-ce que la musique ? Qu'est-ce qu'être musicien ? Et qu'est-ce que la voix ?
Ah. une triade qui mérite une réponse à la hauteur. Et la musique, encore une fois, bon, c'est pour moi le langage universel. C'est le langage sous-jacent à toutes les langues. Le son, la vibration sont aujourd'hui malheureusement manquantes, en tout cas de manière consciente, dans les sociétés actuelles, notamment occidentales. Donc la musique pour moi, c'est cette langue universelle qui nous parle à tous ensemble et qui nous parle à chacun individuellement. C'est la grande force de cet art, de ce don extraordinaire et duquel, malheureusement, on n'utilise pas assez tous ces bienfaits, toutes ces virtualités que la musique porte. Après, la voix, et naturellement, a été mon choix, et peut-être parce que j'avais quelques petits talents vocaux qui étaient là, mais la voix, c'est quelque chose qui va épouser un sens que pour moi, à l'adolescence, en tant que rat de bibliothèque que j'étais, et qui j'aimais beaucoup parcourir les dictionnaires, et quand je suis tombé sur la définition de personne, persona, le masque de l'acteur grec et romain après, prosophone en grec, cela m'a étonné, car on disait que la personne, la personnalité, était fondée sur un artifice, qui était le masque. Et du haut de ma rébellion d'adolescent, je trouvais que c'était un tout petit peu triste de devoir construire des masques pour être. Mais quelques années plus tard, j'ai compris quel était le sens du mot personne. Personne, c'est personare, pour sonner. Pourquoi ? Parce que les masques étaient des amplificateurs du son. Donc ça veut dire qu'une personne, c'est celle qui a le son juste et pas artificiel. Et donc c'est à partir de là, dans cette projection de soi-même, de la personne, qu'en trouvant ce son juste, on est dans la vérité. Donc, si vous voulez, ça a été l'ouverture de tout un champ de réflexion, de voir une fois de plus combien la musique était l'essence même de l'existence humaine. Combien le son, la vibration, était ce germe primordial de l'être. Et après, vous m'aviez dit en troisième, je ne me souviens plus.
Il y avait la musique, être musicien et la voix.
Bon, être musicien, la musique, c'est ça qui est extraordinaire, vous voyez. Je pense que la musique, elle rentre dans un champ qui malheureusement encore aujourd'hui n'a pas été assez développé, qui est celui du temps. C'est l'art du temps.
Oui.
Et on connaît tout sur l'espace, et on connaît très peu sur le temps. Et cette relativité du temps, n'est-ce pas ? Et donc, si vous voulez, la musique est là aussi une traduction de la temporalité. Et être musicien, c'est s'inscrire dans le temps. Car c'est ça qui est merveilleux dans l'acte musical, il est éphémère, mais il est total. Au moment où vous le faites, au moment où vous l'entendez, vous êtes dans le ici et maintenant. Mais ce temps est aussi redevable de tout ce qui vient du passé, mais également, il va être la source de tout ce qui peut arriver dans le futur.
C'est extraordinaire vos réponses, parce qu'elles sont remplies d'une profondeur intellectuelle. Mais vous parliez du temps, c'était une de mes questions que je voulais poser par la suite, mais je la pose maintenant. La musique donne une force au temps. Mais la musique emplit le temps, la musique donne-t-elle une force au temps, et plus particulièrement la musique nous met-elle, nous conduit-elle, nous fait-elle vivre dans l'instant?
Oui, c'est là sa force. Et c'est pour ça que, par exemple, le projet que je porte aujourd'hui, met l'accent sur ce vécu. La musique est la vie. La musique est l'hybridité. La musique est le croisement. La musique est le dialogue, même des contraires. Héraclite le disait, la musique c'est celle qui épouse les contraires. Et donc, si vous voulez, l'acte musical, aujourd'hui nous sommes malheureusement réduits à des actes musicaux qui deviennent de plus en plus exceptionnels, dans le vrai sens du mot. Et la culture, en général, est vécue comme quelque chose d'exceptionnel, quand elle est la vie même. Et donc, si on la détache de ce courant continu, de cette variation perpétuelle de l'art musical, on se détache de la vie. Et à mon avis, aujourd'hui, avec tout ce qui nous arrive, avec la pandémie, avec toute la fragilité de notre monde, même géopolitique, on doit enfin regarder la musique comme une clé de solution. Je ne dis pas que c'est la réponse, mais une des réponses. Et pour laquelle, malheureusement, on ne la regarde pas encore avec l'attention qu'elle mérite.
Alors, vous me permettez de poursuivre, parce que vous venez de dire quelque chose d'hyper intéressant. Le 9 mai 1950, il y avait l'appel de Robert Schuman pour l'appel fondateur de la construction européenne. Première question, Georges Chaminet, quel est votre regard actuel sur l'Europe? Et deuxième question, la musique est-elle, et d'une certaine manière vous venez de répondre, une des clés fondatrices et unificatrices de l'Europe?
Je le dis souvent, si on devrait, ça a été sujet de discussion, et de discussions que je pense continueront, si on devait donner une identité culturelle à l'Europe, elle n'est que musicale.
Dans quel sens?
Dans le sens, je vous dis de façon très primaire, quand vous allez en Océanie, ou quand vous allez en Asie ou aux États-Unis, quand vous interprétez du Bach ou du Beethoven ou du Ravel, on dit c'est de la musique européenne.
Oui, c'est l'identité.
Et pourquoi? Tout à l'heure, je vous parlais d'hybridité. Parce que la musique est cette hybridité. Et cette force, pardon, de croisement. Quand vous regardez une suite de Bach, je le dis très souvent, et pardon s'il y a parmi les auditeurs certains qui m'ont déjà entendu, donc c'est bis repetita, donc c'est aussi la répétition, c'est une des grandes joies du musicien. Donc, si vous voulez, une suite de Bach, vous avez une gigue qui vient d'Irlande, vous avez une sarabande ou une passacaille qui viennent d'Espagne. Vous avez un manuel qui vient du sud de la France ou du nord de l'Italie. Vous avez une allemande. C'est l'Europe. Le chemin de Saint-Jacques, quelque part résultant de cette première ébauche d'Erasmus, parce que les étudiants se promenaient dans le territoire européen, les universités était personnifié, si j'ose dire, dans des disciplines différentes. Ce qui faisait que pour un étudiant au Moyen-Âge, c'était tout à fait normal d'aller à Montpellier, ou d'aller à Salamanque, ou d'aller à Coimbra, ou d'aller à Bologne. Mais il y avait ce chemin de Saint-Jacques qui les réunissait tous. Et là, à l'intérieur, vous aviez des Minnesänger qui venaient du nord de l'Europe. Vous aviez les troubadours qui venaient d'Occitanie ou de Provence, et vous aviez les roulares ibériques. Et tout cela a fait un courant musical qui s'est établi. Donc tout au long de l'histoire européenne, la musique est là comme une rivière qui nous unit à tous, parce qu'elle est le résultat de ces croisements. Parce qu'elle est le résultat de ces dialogues. Regardez les Roms, l'importance de la musique rome dans la musique européenne. Ils sont la preuve même, ces marcheurs devant l'Éternel, qui tout d'un coup se sédentarisent dans un lieu, qui vont être éponges vis-à-vis de l'univers musical de ces lieux, et qui vont apporter leur influence. Et vous voyez chez Mozart, les Égyptiennes, ou Alain Ambroise, ou chez Haydn, ou chez Beethoven, ou chez bien d'autres. Après, vous allez voir ça encore de façon plus magnifiée, si j'ose dire, avec Liszt ou avec Brahms. Donc vous voyez à quel point la musique est toujours ça. Et il y a des affluents partout. Et les sources, elles sont ailleurs. Parce que l'Europe, c'est ça. Les sources viennent des civilisations arabes, persanes, indiennes, orientales en général, africaines. C'est notre grande force. Ce qui fait que dans un périmètre géographique assez restreint, nous avons cette multiplicité de langues, nous avons cette multiplicité de patrimoine, et nous avons cette, donc, richesse musicale.
Magnifique, c'est extraordinaire, Georges Chaminet. Je vous écouterai des heures tellement que la profondeur de votre réflexion. Nous sommes dans un cercle de philosophie et d'anthropologie, donc de la connaissance de l'humain. Platon aimait à dire que pour connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Georges Chaminet, la musique vous permet-elle de vous connaître? Et tout simplement, quelle est votre musique?
Ce n'est pas par hasard, mon cher Emmanuel, que dans le fronton du temple de Delphes, connais-toi toi-même. Et dans ce temple de Delphes, qui était le dieu le plus important dans la mythologie grecque? C'était Apollon. Et Apollon, c'est qui? C'est le dieu de la musique.
Oui.
La boucle est bouclée.
très belle réponse, très synthétique.
Non, ce qui est intéressant, et là je rebondis un tout petit peu sur ce que vous dites sur Platon, ce qui est très intéressant, c'est que vous savez que l'origine, quelque part, des formes musicales qui ont, encore aujourd'hui, qui sont sources musicales, viennent exactement de la pensée pythagoricienne de la musique des sphères, la théorie des cordes.
C'est ça.
Ce n'est pas par hasard que la corde, c'est aussi le cœur. Et la musique, c'est celle qui parle au corps, au cœur et à la raison.
Vous êtes un grand philosophe.
Vous êtes un grand
philosophe.
Loin de là. Je suis un grand bricoleur.
De toute façon, les plus grands philosophes étaient les plus grands musiciens. Pythagore, la gamme pythagoricienne, comme vous venez de le dire.
Mais même chez Platon, c'est intéressant parce que Platon, il va parfois diverger de ses propres pensées. Mais pour moi, il y a un passage absolument extraordinaire, qui est le 10e livre de la République. Si vous lisez, vous comprendrez que Platon considérait la musique, finalement, comme le seul événement possible de sortie de la caverne.
Oui, et votre... Je mettrai en parallèle Platon et Schopenhauer, le grand philosophe Schopenhauer qui soulignait que la vie est comme un pendule qui oscille entre l'ennui et la souffrance. C'est de la définition de la vie. Uniquement, il y a simplement un art qui permet d'être comme un médicament temporaire, pour lui, c'est la musique.
C'est intéressant, oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est bien de citer Schopenhauer, qui a été un philosophe absolument extraordinaire, et je dis cela avec un regard un tout petit peu actuel. Je pense, et là, notre conseil scientifique du Centre Européen de Musique travaille là-dessus, c'est l'importance de la musique pendant le confinement. À quel point elle a été baume pour beaucoup de gens. Et là, on rentre dans une perspective qui me semble importante aujourd'hui et qui est reconnue scientifiquement. Ça veut dire tout ce que la musique apporte comme bien-être, comme bienfait, comme thérapie. pour des maladies aussi diverses comme le Alzheimer, comme le Parkinson, les maladies neurodégénératives, des troubles de comportement comme l'autisme. Aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement, prouvé, combien la musique est importante pour la plasticité cérébrale, pour la concentration, pour la mémoire. Et pourquoi nos ministres de l'Éducation ne se rendent pas compte de cela et nous mettent encore plus de sport? J'ai rien contre le sport, mais je vais vous raconter une histoire qui m'a beaucoup touché. J'étais à Damas, en Syrie, et nous avions établi un programme avec SOS Village. Et quand je suis retourné donc à Damas, nous avions établi un programme d'éducation musicale, d'éveil musical pour les enfants de ces villages SOS. J'ai été reçu par la directrice avec les bras ouverts. Et elle m'a dit, vous ne pouvez pas imaginer le bienfait des programmes musicaux. Les élèves sont devenus beaucoup plus à l'écoute les uns des autres. Moins dans ce sentiment de compétition, dans un éveil d'harmonisation, beaucoup plus concentré dans l'enseignement général. Les notes sont allées en croissant. Et tout cela, c'est la musique qui l'a fait. Ceux du sport, puisqu'il y avait aussi un programme sportif parallèlement, qui avait été choisi par une grande majorité, ils sont devenus beaucoup plus agressifs.
Ah oui.
Beaucoup plus en compétition les uns avec les autres. Et au niveau de l'enseignement général, on n'a vu aucune amélioration. Je dis cela d'un ton un peu provocateur, mais je voudrais enfin que l'enseignement artistique soit partie prenante depuis le jardin des enfants, le jardin d'enfants, le kindergarten, à partir de là jusqu'à l'enseignement universitaire. Je crois que la pratique musicale donne cette responsabilité humaine de nous accorder les uns aux autres.
C'est magnifique, que nos gouvernants, que nos dirigeants nous vous écoutent. Georges Chaminet, je voudrais parler de ce projet qui vous tient à cœur. Vous êtes le président fondateur du Centre européen de musique, encouragé par Emmanuel Macron. Ce Centre européen, c'est une croisée des cultures. Je dirais que c'est la croisée à la fois de l'art, c'est la croisée des personnes aussi, voilà. C'est la croisée scientifique. Enfin, tout converge vers ce centre-là.
Alors, vous savez, c'est une, déjà un tout petit peu une longue histoire, parce que ça fait 22 ans que je porte ce projet. Au début, c'était un projet de mémoire. Il y a un domaine musical et artistique, et également littéraire, à Bougival, à 20 minutes de Paris, porte à porte. Au 19e siècle, il y a eu toute une série de personnages qui se sont installés à Bougival. Et pas des moindres. Georges Bizet, c'est là où Carmen est née.
Oui.
La Séviane est née au bord de Seine, avant de monter sur Seine. C'est ça qui est absolument extraordinaire. L'opéra le plus populaire au monde. Du compositeur français le plus universel, le plus polyglotte, si j'ose dire, car il a aussi composé des œuvres comme Djamilé, profondément attaché à la musique arabe, ou Les Pêcheurs de Perles, avec des côtés orientalistes. Donc c'est quelqu'un qui a pénétré, si vous voulez, par la musique, dans tout un tas de langages. Et vous avez cette femme absolument fabuleuse, je suis tombé amoureux d'elle, qui est Pauline Viardot. Pauline
Viardot, assez peu connue.
Très peu connue, que je défends depuis très longtemps, et on a fêté en 21 le bicentenaire de sa naissance. Il y a enfin un square, ou plutôt un petit jardin à Paris qui porte son nom. Il y a l'Institut de France, avec France Mémoire, et qui, après que j'ai passé une sorte d'audition devant l'Institut de France, a considéré bon d'inscrire Pauline Viardot aux commémorations nationales, que le président de la République a apporté son haut patronage à toute l'année, pas simplement pour un événement, mais à toute l'année consacrée à Pauline Viardot. Mais qui était-ce Pauline Viardot? Elle était musicienne, bien sûr, mais c'était ce que je peux considérer une polymathe. Elle était une extraordinaire dessinatrice. Comme musicienne, elle était pianiste, chanteuse, compositrice. Elle était aussi costumière, elle était aussi épistolaire, polyglotte, parlant six langues couramment, et écrivant couramment en cinq. Et ce fut autour d'elle qui s'est créé au XIXe siècle une sorte d'esquisse d'une conscience culturelle européenne. Et que cette Europe était la réponse au nationalisme qui était en train de pointer partout, aux impérialismes, qui nous ont conduits au XXe siècle, naturellement, aux deux guerres. Et eux, autour d'elles, les grands esprits du XIXe siècle, de l'Oural jusqu'à l'Atlantique, avec naturellement l'apport extraordinaire de cet écrivain russe qui était fou amoureux d'elle et qui a été un grand écrivain, qui était Tourguenieff, son mari, Louis Viardot, qui était un personnage très important, grand ami de Georges Sand, qui est devenu aussi la grande amie de Pauline. Et simplement, comme petite parenthèse, tous ceux qui aiment Georges Sand, lisez Consuelo. Consuelo, c'est pour moi un des plus beaux romans de Georges Sand, qui est dédié à Pauline, et Pauline en est l'inspiratrice. Et là, c'est une responsabilisation de l'artiste qui est en train de germer depuis Beethoven, mais que chez Pauline va devenir véritablement la citoyenne, la musicienne citoyenne. Et donc qui porte aussi cette idée de dialogue entre les arts, entre les sciences, entre les lettres, qui se réunissaient autour d'elle, et c'est pour ça que j'aime l'appeler la Mère Europe.
Ah, c'est beau, hein. C'est très beau. Georges Chaminet, malheureusement, le temps avance, oui.
Oui, non, je voulais simplement vous dire que c'est à partir de ce patrimoine que j'ai construit ce grand projet du Centre Européen de Musique. Le Centre Européen de Musique, c'est aussi donner un avenir à ce souvenir.
C'est vrai.
Et c'est une académie de musique, c'est un auditorium, c'est un laboratoire de recherche musique-cerveau, c'est un institut thérapeutique avec un accompagnement thérapeutique donc par la musique auprès de maladies diverses. C'est aussi une maison intergénérationnelle où les musiciens retraités vont cohabiter avec les jeunes musiciens de l'académie. Mais c'est également un incubateur de start-up qui vont travailler sur des applications, soit sur la pédagogie musicale, soit sur des applications pour le bien-être et pour la thérapie. Mais c'est également faire revivre ce patrimoine dans des parcours touristiques et culturels à l'intérieur de la colline des impressionnistes que nous avions défendue en 2001 et qui était condamnée à devenir des lotissements et qui maintenant est patrimoine naturel de la région Île-de-France. Et donc, si vous voulez, c'est installer, encore une fois, à 20 minutes de Paris, un lieu où la culture va être la vie. Donc, si tout va bien, tout cela doit se dessiner dans les prochains mois, et peut-être que l'inauguration se fera, si tout va bien encore une fois, en 2025. Donc, en tout cas, c'est absolument fondamental que la musique et la culture en général, et tous ces dialogues entre les arts, les lettres et les sciences, deviennent quelque chose, encore une fois, pas d'exceptionnel, mais de quotidien. Et là a surgi l'idée de quartier de culture, des quartiers de culture qui aujourd'hui peut devenir aussi un tissu européen avec la participation de pays du territoire européen comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la République tchèque, l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, qui nous font confiance.
C'est magnifique. Que ce projet, je vous souhaite vraiment la réussite de ce projet qui est un projet d'unité. Et malheureusement, Georges Chaminet, le temps passe tellement vite, mais je voudrais quand même évoquer votre participation à la COP26 à Glasgow. Et je vous cite, vous avez, lors de votre discours, vous avez souligné qu'il faut que l'économie regarde la culture comme un partenaire essentiel, car la culture est la seule qui puisse responsabiliser chacun d'entre nous. Georges Chaminet, dans ce mot, j'aime ce mot de responsabilité, parce que dans ce mot-là, vous avez la réponse, le mot de réponse. Autrement dit, quelle est la réponse que vous souhaitez apporter à l'humanité à travers ce magnifique projet que vous menez?
Je ne suis pas en train de penser que cette réponse sera la seule, mais en tout cas, je l'avance. Et à partir du moment où l'économie et la culture se donneront la main, vous savez, Emmanuel, nous sommes dans une situation dramatique, disons-le, pour ne pas dire pire que ça. Le changement climatique et la façon comment nous nous sommes comportés avec notre mère Terre, tout ce qui peut nous arriver, c'est le résultat d'un monde où l'économie a été impérialiste. Si la culture avait été présente, cette responsabilité aurait été là. Mais à partir du moment où, pendant des décennies, le monde économique a regardé le monde culturel comme un simple entertainment, là nous sommes réduits à devenir des esclaves. Et tout d'un coup, les artistes sont vus dans une situation qui très souvent a été menée aussi par le monde politique, très allié au monde économique, où on devenait des chambellans, où on devenait des victimes. Et moi, la victimisation ne m'intéresse pas, et d'être chambellan non plus. Donc c'est dans cette responsabilité de musicien que je me suis inscrit dès le départ. Et le moment, et je suis sûr, même dans la construction européenne, on doit être redevable, tous, toutes générations confondues, à ces 70 ans de paix. Quand vous regardez l'histoire humaine, il y a 95% de temps qu'on a passé en guerre. Que 5%. Et nous sommes, en tout cas ma génération, elle est redevable de cela. Mais pour que cette construction européenne soit pérenne, elle doit être culturelle. Et si la culture n'est pas un des fondements, et surtout aujourd'hui, de la construction européenne à venir, on sera toujours dans le porte-à-faux. Et on sera toujours dans un impérialisme qui devient économique. Donc le moment est venu pour que la culture devienne à nouveau une co-maîtresse de maison. Elle a été la servante, il est temps qu'elle devienne aussi une co-patronne.
Magnifique. Magnifique. Georges Chaminet, une toute dernière question. À tous les milliers d'étudiants qui vous regardent, quel message pouvez-vous aujourd'hui leur apporter? Quel message d'espérance?
Oh, espérance toujours, toujours. Vous savez, je viens d'un pays qui m'est très cher, même si je suis un mélange de beaucoup de sang européen, mais je viens d'un pays qui s'appelle le Portugal, et qui est un pays tout petit, à l'extrême occident de l'Europe, qui à un moment donné, en regardant un peu sa situation, s'est rendu compte que d'un côté il avait la terre, et que cette terre était naturellement l'Espagne, cette puissante Espagne qui faisait si peur et qui fait dire que je suis le produit d'un mauvais mariage, parce qu'en portugais, ma mère est espagnole, donc en portugais on dit que de l'Espagne ni bon vent ni bon mariage, puisque vento e casamento, ça rime. Et cette mer immense, en face, qui naturellement était source de beaucoup de problèmes, notamment agricoles, puisque les sables de la mer détruisaient les cultures. Et il y a eu un roi extraordinaire qui s'appelait Denis, qui était un roi poète. Je pense qu'on doit toujours faire confiance aux poètes. Et lui, il a compris qu'il fallait absolument border, si j'ose dire, toute la côte portugaise avec des plantations d'arbres. Et que ces arbres allaient pouvoir être le matériel de construction des caravelles. Et ces caravelles, avec à peu près 200 000 âmes qui comportaient le Portugal à l'époque, se sont jetées à l'océan pour découvrir le monde. Et à un moment donné, il y a eu le passage, le célèbre passage du Cap des Tourmentes. Et les Portugais l'ont baptisé, ou rebaptisé, Cap de la Bonne Espérance. Donc aujourd'hui, nous vivons des moments de tourmente, mais ce que je vous demande, c'est d'être toujours confiant que les tourmentes peuvent devenir la bonne espérance.
Je crois que je n'ai rien à rajouter. Georges Chaminet, merci de m'avoir reçu.
Merci à vous
pour ce beau message d'espérance que vous venez d'offrir à toute la jeunesse d'aujourd'hui. Mais permettez-moi de terminer par une citation de Stendhal qui, à mon sens, vous caractérise. La vraie musique ne se trompe pas et va droit au fond de l'âme chercher le chagrin qui nous dévore. Georges Chaminet, merci de nous avoir permis, par la profondeur de vos mots, de nous faire comprendre que la musique, c'est vraiment celle qui nous sauvera et qui nous sauve au quotidien. Merci de nous avoir permis cela aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Merci pour ce cadeau. Et bon courage et tous mes voeux de succès à votre projet, le Centre Européen de Musique de Bourgival.
Merci infiniment.